Bonjour Victoria, bon début de semaine à tous les auditeurs francophones et francophiles de CILS FM 107,9, la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses. C'est parti pour une nouvelle édition du débrief. On a actuellement 18 degrés à Victoria à 16h et des poussières. Une avalanche de nouvelles pour vous aujourd'hui, comme d'habitude. Autant commencer sans plus tarder avec les bulletins de Denis Lépine. On va se retrouver dans 4 minutes avec la météo détaillée. Ce sera suivi du bulletin quotidien des Nations Unies. Je mentionne en passant que nous recevons aujourd'hui en studio l'artiste Nathalie Leduc qui revient nous parler du festival Burning Man, cette fois pour nous livrer un compte-rendu de l'édition 2016. Restez à l'écoute, la première partie de cet entretien sera diffusée vers 16h40. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Deuxième conférence scientifique canadienne en agriculture biologique, eh bien l'événement a pour thème « La recherche en bio se cultive à la ferme » et a lieu à Longueuil, à quelques minutes seulement du centre-ville de Montréal. Les journées de conférence sur la recherche en production animale et végétale seront entrecoupées d'une journée de visite à la ferme. Les résultats de recherche liés aux principaux enjeux qui touchent le secteur agricole biologique canadien y seront présentés. Le Canada a fait le bilan de ce qui a été dit et entendu lors de la troisième conférence annuelle Our Ocean à Washington. Secrétaire parlementaire au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Serge Cormier, a déclaré que les annonces témoignent des mesures que prend Ottawa pour la conservation et la protection de nos océans. Il a aussi confirmé que le Canada est solidaire de ses partenaires internationaux, comme les États-Unis, pour que les milieux marins soient préservés. Il a réaffirmé l'engagement du Canada à protéger 5% des zones marines d'ici 2017 et 10% d'ici 2020. 34e réunion annuelle des ministres responsables de la condition féminine au niveau des échelons fédéral, provinciaux et territoriaux. Patty Aidou, ministre fédérale de la condition féminine, a dit que le gouvernement du Canada est résolu à atteindre l'équité salariale et travaille avec les provinces et les territoires afin de se pencher sur les enjeux importants qui touchent aujourd'hui les femmes et les filles au Canada. Les discussions se sont déroulées à Edmonton. Les ministres ont fait le point sur les mesures prises au sein de leur gouvernement pour réduire et prévenir la violence fondée sur le sexe. C'est la rentrée parlementaire à Ottawa aujourd'hui et plusieurs dossiers devraient retenir l'attention des élus, entre autres celui des transferts en santé. Un face-à-face entre Ottawa et les provinces n'est pas impossible. Le projet Énergie Est sera également discuté. L'économie et la croissance économique sont d'autres dossiers qui monopoliseront probablement les débats en chambre au cours des prochains mois. Politique américaine, la percée de Donald Trump dans les dernières semaines ne semble pas avoir coûté la tête des intentions de vote à Hillary Clinton. Une analyse d'Associated Press s'est penchée sur la carte électorale en fonction des sondages et des tendances démographiques et des facteurs de campagne. Ce qui en ressort est une course serrée, mais avec l'avantage allant toujours à la candidate démocrate. L'organisation des deux candidats et l'historique électoral ont aussi été prises en considération. L'explosion qui a secoué la 23e rue entre les 6e et 7e avenues à New York samedi n'aurait aucun lien avec le terrorisme international. C'est ce qu'ont déclaré les autorités au cours du week-end. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a dit qu'on trouvera les responsables et qu'ils seront menés devant la justice. Cuomo est venu jeter un coup d'œil sur le site de l'explosion survenue dans ce quartier très huppé de Manhattan. Il est à noter que la ministre du Commerce, Chrystia Freeland, discutera de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne aujourd'hui en Allemagne. La ministre doit prononcer un discours à la conférence annuelle du Parti social-démocrate allemand à Wolfsburg. Elle prendra aussi la parole à une réunion de tous les ministres du Commerce de l'Union européenne le 22 septembre à Bratislava en Slovaquie. Rappelons aussi que l'ancien ministre fédéral Pierre Petitgroux a été choisi à titre d'envoyé spécial pour l'accord. La ministre des Sports et des Personnes handicapées, Clara Caltrow, a fait une déclaration à l'occasion de la clôture des Jeux paralympiques 2016 à Rio hier. Elle a dit qu'au cours des 11 derniers jours, nos athlètes ont incarné les valeurs paralympiques qui sont le courage, la détermination, l'inspiration et l'équité. La ministre canadienne a dit aussi qu'ils ont représenté leur pays et qu'ils nous ont fait vivre des moments inoubliables de persévérance et de triomphe. Au sport, au baseball majeur, autre revers des Blue Jays, cette fois 4-0 contre les Angels de Los Angeles. Au classement, les hommes de John Gibbons s'enlisent et se retrouvent maintenant à 4 matchs de la tête dans l'Est. Les Jays, qui seront à Seattle ce soir, n'ont que 4 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Au hockey, Coupe du Monde, eh bien la Suède a défait la Russie 2-1 et l'Amérique du Nord a eu raison de la Finlande 4-1. Cet après-midi, la République tchèque affrontera l'Europe et ce soir, l'Amérique du Nord contre la Russie. Au football, NFL week-end numéro 2, victoire entre autres pour Denver, la Nouvelle-Angleterre, Pittsburgh et Dallas. Et du côté de la Nouvelle-Angleterre, eh bien les Patriots ont perdu les services de Jimmy Garoppolo. Son cas est incertain pour le match de jeudi contre Houston. Et ce soir, au match du lundi soir, Philadelphie sera à Chicago. Et au football canadien, en terminant, la Saskatchewan a eu raison d'Edmonton 26-23.
C'était les bulletins de Denis Lépine. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous pour cette édition du Débrief en ce 19 septembre. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 20 septembre, bienvenue dans l'émission. On jette un coup d'œil à présent à la météo. On a actuellement 16 degrés au port de Victoria du côté du campus de l'Université de Victoria, un petit peu plus au nord du centre-ville. On a 18 et à l'aéroport. Enfin, on a 17 à proximité de Sydney. Il y a une probabilité d'averse en soirée qui se situe à environ 60%, donc on aura au cours des prochaines heures une alternance soleil-nuage, 60% de probabilité, je le disais, d'averse avec un maximum de 18 degrés. Pour demain, c'est un mélange soleil-nuage, encore une fois, un maximum de 17. Pour mercredi 21 septembre, retour du soleil pour l'équinoxe, on aura un maximum de 20 degrés. Ensuite, jeudi 22 degrés, jeudi 22 septembre, pardon, 20 degrés. Et si on pousse très loin dans les prévisions d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, on aperçoit pour la journée de vendredi un maximum de 17 avec une journée essentiellement ensoleillée. Donc voilà pour la météo de Victoria. Merci d'être à l'écoute. On retourne aux infos de ce pas. On va écouter le bulletin des Nations Unies et on se retrouve pour les nouvelles provinciales dans 10 minutes. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Une édition largement consacrée au sommet sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants. Nous reviendrons sur la déclaration de New York adoptée par les États membres, mais aussi sur les interventions de Ban Ki-moon et du président du Niger. Et puis un dossier coup de projecteur avec William Swing sur le mariage célébré aujourd'hui entre l'Organisation internationale pour les migrations et l'ONU. Le sommet international sur les déplacements massifs de migrants et de réfugiés s'est donc ouvert ce lundi au siège de l'ONU avec l'adoption à la présence de plusieurs dizaines de chefs d'État de la déclaration de New York, texte par lequel les dirigeants du monde s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants et à sauver des vies. En 2015, on comptait 244 millions de migrants et 65 millions de personnes déplacées de force, dont 21 millions de réfugiés et 3 millions de demandeurs d'asile. Les États se sont également engagés à lancer des négociations en vue de l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le point avec Isabelle Dupuis.
En adoptant la déclaration de New York, les États s'engagent à protéger les droits de l'ensemble des migrants et des réfugiés, quel que soit leur statut. Le texte aborde la nécessité de protéger les femmes et les filles de toute forme d'exploitation, de combattre la traite des êtres humains, de cesser de détenir les mineurs pour déterminer leur statut migratoire et d'assurer la scolarisation des enfants migrants ou réfugiés. Le document appelle également à promouvoir un partage plus équitable de la charge et des responsabilités que représente l'accueil des réfugiés et à améliorer l'assistance humanitaire et l'aide au développement aux pays les plus directement touchés. La déclaration appelle aussi à mettre en place un cadre exhaustif pour faire face aux déplacements à large échelle et aux situations de réfugiés prolongées. Par ce texte, les États appellent en outre à assouplir les formalités administratives afin d'accélérer les procédures d'admission et d'accroître la diversité des voies de droit offertes aux réfugiés pour être admis ou réinstallés dans des pays tiers. Enfin, la déclaration de New York engage les pays hôtes à envisager de leur ouvrir leur marché du travail.
Ce sommet a également été marqué par le lancement par le secrétaire général de la campagne Ensemble, qui vise à lutter contre la xénophobie dans le monde. À cette occasion, Ban Ki-moon a appelé les dirigeants réunis à s'engager à faire respecter les droits et la dignité de toute personne contrainte de quitter son foyer pour trouver une vie meilleure. Pour le secrétaire général, les réfugiés et les migrants ne doivent pas être considérés comme un fardeau, mais sont porteurs au contraire d'un énorme potentiel à condition que celui-ci puisse être libéré. Intervenant plus tard devant un groupe de réfugiés, Ban Ki-moon a expliqué pourquoi il a tenu à organiser ce sommet en dépit de la résistance, a-t-il révélé, de certains États membres.
Lorsque j'avais 6 ans, la guerre de Corée a éclaté. Mon village a été brûlé et j'ai été obligé de fuir de chez moi. J'étais l'un de vous. La vie était très difficile et j'ai grandi sans lumière, sans électricité, sans eau potable. Les Nations Unies sont arrivées avec des troupes et de l'aide humanitaire. Je suis toujours conscient de cette dette et de ma gratitude envers les Nations Unies. Je fais tout mon possible en tant que secrétaire général pour permettre aux migrants et aux réfugiés de contribuer à notre avenir commun. Lorsque je vois un enfant dans un camp de réfugiés, je ne vois pas uniquement la faim, la douleur et la peur. Je vois une fille ou un garçon qui mérite qu'on lui donne la chance de grandir fort et en bonne santé et de contribuer à notre monde.
On l'a compris, de nombreux chefs d'État participent à ce premier sommet, à l'instar du président du Niger, Mahamadou Youssoufou, qui a mis l'accent sur les causes profondes des mouvements massifs de réfugiés et de migrants. Des causes qui ont pour nom pauvreté, inégalité, insécurité, déficit démocratique et changement climatique. Mahamadou Youssoufou, qui a déploré que son pays, le Niger, subisse spécifiquement les conséquences des crises libyennes et maliennes et du terrorisme de Boko Haram, d'où son appel.
Face à tous ces défis, le Niger souhaite une mobilisation conséquente de la communauté internationale. Aussi souhaitons-nous un règlement rapide de la crise libyenne. Cela doit passer nécessairement par le rassemblement et la réconciliation de tous les Libyens dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale inclusif. Le Niger souhaite également une stabilisation de la situation au Mali. Pour ce faire, un renforcement du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali est indispensable car la situation que vit ce pays n'est pas une situation classique de maintien de la paix. Le Niger se félicite des actions menées par la force mixte multinationale contre Boko Haram et invite la communauté internationale à soutenir les pays du bassin du lac Tchad qui font face à une crise humanitaire sans précédent.
Et puis toujours lié à la question des migrants et des réfugiés, la suite à Genève des travaux du Conseil des droits de l'homme. Au menu ce lundi, un dialogue interactif avec la commission d'enquête pour la Syrie. Dialogue auquel a pris notamment part la France qui, par la voix de sa représentante permanente à Genève, Elisabeth Lorrain, a réaffirmé la volonté de la France de ne voir aucun des crimes commis en Syrie rester impuni.
À titre national, la justice française est saisie du rapport César pour crimes contre l'humanité, enlèvement et torture. Nous encourageons les efforts des autres juridictions nationale. Il convient que la commission d'enquête poursuive sa collaboration avec ces juridictions. Il est par ailleurs indispensable que votre travail débouche à terme sur la saisine de la justice internationale. Qui peut croire en une paix durable en Syrie si les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ne sont pas poursuivis? C'est pourquoi la France continuera à demander à ce que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale. En parallèle, il est plus que jamais urgent de relancer le processus politique pour engager une transition crédible en Syrie dans le cadre fixé par la résolution 2254. C'est l'une des conditions pour que le nouvel accord russo-américain de cessation des hostilités, dont le contenu reste encore flou, ouvre cette fois la porte à la fin du martyre de la population syrienne.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
En marge du sommet sur les réfugiés et les migrants, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et l'ONU ont signé ce lundi un accord qui fait de l'OIM une agence de l'organisation. L'accord vise à renforcer leur coopération et améliorer leur capacité en faveur des migrants. Pour en savoir plus sur l'importance de cette relation plus étroite et sur l'importance du sommet, Christina Silvero a tendu son micro au directeur général de l'OIM, William Lacey Swing.
Bonjour Monsieur Swing, Christina Silvero. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. C'est un grand grand jour pour l'OIM qui se joint à l'ONU. C'est une union qui se fait en marge du sommet sur l'immigration et les réfugiés. Pourquoi était-il important de le faire à ce moment-ci? Pourquoi c'est l'occasion de s'unir les forces?
Il est important surtout à cause de la situation dans le monde. On vit dans une période de grande crise, crise de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie. On a ce point-là. Deuxièmement, on a les accords maintenant qui excluent l'OIM, parce que nous ne sommes pas membres des Nations Unies. Et troisièmement, c'est une chose un peu, je peux dire, très naturelle, parce que nous avons coopéré depuis 65 années avec les Nations Unies. Et maintenant, on dit pourquoi pas maintenant, on pourrait être un partenaire un peu plus efficace que si on restait hors.
Justement, qu'est-ce que ce partenariat va vous permettre de faire de plus?
Bon, premièrement, ça va nous donner une place à table. On n'avait pas avant. On était parfois exclus dans les discussions. Par exemple, on était exclus de le soi-disant dialogue à haut niveau. On était exclus en 2013 parce qu'on n'était pas membre des Nations Unies. Même si nous étions l'agence globale pour la migration, on est exclu et ça n'arrive plus maintenant. On aura accès à l'information et à les fonds, n'est-ce pas, pour faire des projets. Hein.
Et l'ONU sera, pour sa part, plus rattachée au terrain?
Oui, je crois. On va être vraiment plus efficace avec nos partenaires, surtout avec HCR, avec le Haut Commissaire pour le droit de l'homme, avec PNUD, avec toutes les autres agences, n'est-ce pas? Nous sommes des partenaires depuis beaucoup d'années, mais maintenant, on est plus ou moins au même niveau.
Par rapport à la déclaration de New York sur laquelle s'accordent les pays aujourd'hui, quels sont les points forts, selon vous, de cette déclaration et vos attentes concrètes?
Bon, premièrement, je trouve le fait qu'on a pu faire une déclaration entre 193 membres des Nations Unies et dans une période très limitée et remarquable. C'est une déclaration qui nous donne la possibilité d'examiner un peu plus les causes de toute cette migration forcée, qui nous donne une perspective plus large qui peut réunir les nations autour de certains principes. Et surtout, plus important, c'est que ça met en marche un processus vers 2018, une conférence internationale sur le compact global sur l'immigration. Et c'est ça qui est important.
Que dites-vous à ceux qui peuvent critiquer que c'est une déclaration qui n'a pas trop de chiffres et d'engagements concrets?
Oui, écoute, c'est pas une déclaration parfaite, mais au moins c'est un premier pas et chaque voyage commence avec un premier pas. Il faut être positif, comme nous sommes.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'écouter Le Débrief, votre rendez-vous d'info en fin de journée du lundi au jeudi. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. J'espère que vous allez bien. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 20 septembre, bienvenue dans l'émission. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On apprend sur le portail de Radio-Canada que le Parti conservateur de la Colombie-Britannique a un nouveau chef. Il s'appelle Dan Brooks, pas si nouveau, vous allez voir, puisqu'il avait déjà occupé cette fonction. Dan Brooks a été élu avec une majorité de 52,1% des voix lors d'un récent congrès à la direction, un congrès de deux jours tenu à Prince George dans le nord de la province. Dan Brooks a battu son rival Conrad Pimiskern qui lui a obtenu pour sa part 47,9% des suffrages lors d'un second tour. Dan Brooks regagne ainsi le poste qu'il avait remporté en avril 2014, mais dont il avait démissionné en février dernier, en début d'année. Le vainqueur, donc Dan Brooks, s'est présenté comme étant le seul capable d'unifier les conservateurs de Colombie-Britannique en vue d'obtenir des résultats historiques aux élections provinciales de mai 2017. Originaire de Vanderhoof, non loin de Prince George, cet entrepreneur et père de famille soutient les projets de pipeline et le développement des exportations de pétrole vers la Chine. La dernière victoire victoire du Parti conservateur, signale Radio-Canada dans ce court article, remonte à 1975 en Colombie-Britannique. On parle à présent du salaire minimum. Il a connu une petite augmentation ici en Colombie-Britannique. Le salaire minimum payé dans la province a augmenté de 40 cents jeudi 14 septembre pour passer de 10,45 $ l'heure à 10,85 $ l'heure. Une hausse de salaire minimum est aussi appliquée à certains autres métiers, comme serveur de boissons alcoolisées, par exemple. Ceux-ci verront le montant horaire grimper de 9,20 $ à 9,60 $. Les aides-soignants en établissement, les récolteurs de fruits et les moniteurs de camp seront aussi mieux rémunérés dans la foulée de cette augmentation. La province avait annoncé cette augmentation au mois de mai dernier en déclarant que la mesure renforcerait la croissance économique de la province. Le gouvernement ajoutait que le salaire minimum augmenterait de nouveau le 15 septembre 2017, dans un an, pour passer à 11,25 $ de l'heure. La Colombie-Britannique n'est donc plus la province affichant le plus bas salaire horaire au Canada. Le salaire minimum le plus élevé actuellement se trouve au Nunavut. Il est de 13 $ de l'heure au Nunavut. Et il faut mentionner, bien sûr, que l'Alberta, sous la gouverne de Rachel Notley, a récemment augmenté le salaire horaire à 15 $ de l'heure. Seulement, l'application de la mesure n'est pas encore en vigueur, mais c'est pour bientôt en Alberta. Espérons que d'autres provinces emboîteront le pas. La présidente ici, en Colombie-Britannique, la présidente de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique, Irène Lanzinière, a estimé que cette hausse était insuffisante pour endiguer la pauvreté dans la province de Colombie-Britannique. Il faudrait, a-t-elle déclaré à Radio-Canada, une politique de logement abordable, un relèvement des taux de l'aide sociale et un salaire minimum de 15 $ de l'heure, et ce, dans l'immédiat, a-t-elle déclaré. On va rester sur le portail de Radio-Canada qui nous mentionne que nos amis de Vancouver vont voir leur réseau de transport en commun se modifier cet automne. Les différentes lignes du SkyTrain du Grand Vancouver ont été réorganisées en vue de l'ouverture prochaine de la ligne Evergreen. Les changements entreront en vigueur à partir du 22 octobre. Entre autres, changements majeurs dans ce système de transport en commun: la ligne appelée Millennium, celle qui apparaît en jaune sur la plupart des cartes du réseau, n'ira plus jusqu'au centre-ville de Vancouver. Les trains de cette ligne feront seulement le voyage entre le centre Lougheed et la station VCC Clark. La nouvelle ligne Evergreen, dont l'ouverture est prévue en décembre, se transforme en prolongement de la ligne Millennium. La Millennium ira donc de la station VCC Clark à Vancouver jusqu'à la station Coquitlam Center. TransLink, qui est la société de transport de Vancouver, a expliqué qu'elle voulait avant tout faciliter le transport entre les banlieues de Vancouver et le centre-ville. Un touriste européen devra payer une amende de 4 000 $ pour avoir tenté de voler un fossile des schistes argileux de Burgess dans le parc national de Yoho en Colombie-Britannique. Le superviseur des gardiens de parc, Jim Mamelis, a indiqué qu'un guide de randonnée avait surpris l'homme en train de mettre un fossile dans son sac à dos. Le guide a alerté les gardiens aussitôt, qui sont intervenus et ont arrêté le voleur. Quand ceux-ci ont fouillé le sac du voleur, ils ont découvert un fossile de trilobite caché dans une chaussette. Le touriste a été accusé d'avoir enfreint un article qui interdit notamment d'enlever des objets préhistoriques des parcs. La cour provinciale de Golden a finalement imposé l'amende minimale, soit une amende de 4 000 $. Jim Mamelis de l'organisme superviseur des gardiens de parcs, oui, estime qu'il existe actuellement un marché noir assez actif de fossiles provenant des schistes argileux de Burgess. Le site renferme des gisements fossilifères parmi les plus importants de la planète, et certains spécimens datent de plus de 500 millions d'années. La valeur peut aller de 300 à 400 $ pour un fossile trilobite assez commun, mais nous avons vu des fossiles rares de cette région vendus en ligne pour plus de 10 000 $, a-t-il précisé. Il soutient que les autorités tentent continuellement de raffiner leurs techniques pour attraper les voleurs de fossiles. Donc c'est sur cette nouvelle un peu insolite qu'on ferme la portion provinciale de ce journal. On va aller en musique, on fait une petite pause musicale avec une formation qui s'appelle le Husky. La pièce, très logiquement, s'intitule Les Chiens. Et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Faudrait que je te dise avant la fin de la nuit, faut que t'arrêtes de sourire. Je te dis pas ça pour rire, ma chérie. Je t'ai un peu tanné de mentir. Viens donc par ici, arrête de t'en.
Pièce Les Chiens de la formation Le Husky dans le débrief, presque 16h29, vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être en notre compagnie cet après-midi. On va passer à la nouvelle du jour. On parle, pour commencer, des questions autochtones. Ottawa, sommet de remédier à la discrimination dans le dossier de l'éducation des enfants autochtones. Environ 163 000 enfants ont fait l'objet de discrimination de la part du gouvernement Trudeau relativement à la prestation des services de l'enfance, les services à l'enfance, pardon, dans les réserves autochtones du pays, a déclaré la militante Cindy Blackstock jeudi, il y a quelques jours après que le Tribunal canadien des droits de la personne eut publié une seconde ordonnance exécutoire sur ce sujet. Madame Blackstock dirige la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, un organisme qui a passé 9 ans à se battre contre le gouvernement fédéral concernant les services à l'enfance dans les réserves aux côtés de l'Assemblée des Premières Nations. Selon les Premières Nations, les Canadiens doivent savoir que le gouvernement Trudeau n'a pas encore obtempéré à la décision du tribunal. Par ses actions, le gouvernement du Canada indique qu'il est au-dessus de la loi et que malheureusement, les enfants des Premières Nations ne sont pas protégés par la loi, a soutenu Cindy Blackstock. Et cela ne devrait plus être permis dans ce pays, surtout après les pensionnats. Voilà sa déclaration. On a aussi un petit peu plus loin un paragraphe qui explique le contexte. Dans son plus récent jugement, le Tribunal canadien des droits de la personne, le TCDP, a donné une série de directives au gouvernement exigeant notamment du ministère des Affaires autochtones qu'il fournisse des renseignements clairs sur la manière dont il compte mettre en œuvre la décision rendue par le tribunal en janvier dernier, donc concernant les enfants des réserves, les enfants autochtones grandissant dans les réserves du pays. Si vous voulez consulter cette nouvelle, ça s'intitule « Service aux enfants autochtones, Ottawa sommet de remédier à la discrimination ». C'est un petit peu partout dans les médias aujourd'hui. Vous trouverez cette nouvelle dans le journal La Presse, lapresse.ca. On apprend par ailleurs dans le même journal La Presse que l'ex-ministre québécois Benoît Pelletier est pressenti pour succéder à Graham Fraser. L'ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la francophonie dans le gouvernement de Jean Charest, Benoît Pelletier, fait partie d'une courte liste de candidats pressentis pour devenir le prochain commissaire aux langues officielles du Canada en remplacement donc de Graham Fraser. Donc Benoît Pelletier, expert en droit constitutionnel, il enseigne actuellement à l'Université d'Ottawa, est perçu comme l'un des deux candidats les plus sérieux pour succéder à l'actuel chien de garde des droits linguistiques des Canadiens, Graham Fraser, selon des informations obtenues par le journal La Presse auprès de diverses sources. En poste depuis 2006, Graham Fraser doit en principe quitter ses fonctions le 16 octobre prochain, dans un mois exactement, après avoir obtenu en 2013 une prolongation de son mandat par l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. Si le gouvernement Trudeau observe le principe de l'alternance, il devrait jeter son dévolu sur un candidat dont la langue maternelle est le français, selon les informations obtenues par La Presse. Donc autant de probabilités supplémentaires pour la candidature de Benoît Pelletier, oui. Dans une entrevue accordée à La Presse, le commissaire actuel Graham Fraser a clairement signifié qu'il ne voulait pas s'immiscer dans le choix de son successeur, mais il a indiqué être prêt à demeurer en poste si nécessaire jusqu'en décembre prochain pour faciliter la transition. On parle aussi des dossiers, justement, on reste dans le créneau fédéral, politique fédérale du côté d'Ottawa. Il y a sur La Presse un bon compte-rendu, un bon bilan des dossiers chauds qui vont occuper les prochains mois d'automne. Le premier ministre Trudeau, écrit La Presse, devra naviguer avec prudence dans les eaux tumultueuses qui heurteront inévitablement le navire libéral cette automne. Et La Presse donc propose un survol des dossiers à suivre de très près, alors que la Chambre des communes reprend ses travaux aujourd'hui même. Donc le premier dossier, lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement Trudeau compte ratifier rapidement l'accord de Paris sur les changements climatiques, et cela avant même la tenue d'une conférence des premiers ministres du Canada prévue en novembre, afin d'élaborer un cadre national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES. Autrement, il y a aussi en santé un accord sur le financement des soins de santé. Le financement des soins de santé sera sans doute une autre pomme de discorde entre Ottawa et les provinces, écrit le journal La Presse, à moins que le gouvernement Trudeau n'accepte de délier généreusement les cordons de sa bourse. Il y a aussi, indique La Presse, le fameux dilemme des pipelines. Le gouvernement Trudeau doit décider avant le 22 septembre, c'est dans quelques jours, s'il interjette appel de la décision de la Cour fédérale d'annuler l'approbation de la construction de l'oléoduc Northern Gateway en Colombie-Britannique. Vous connaissez sans doute cet oléoduc en projet qui doit rallier le nord de l'Alberta au littoral du nord britanno-colombien et débouchant sur un littoral qui est parsemé de d'îles et de passages très étroits. C'est un projet qui n'a pas l'adhésion des Premières Nations et ni celle des groupes environnementaux. Donc, un important dossier dont on va connaître de nouveaux développements, pour lequel on va connaître de nouveaux développements le 22 septembre. Il y a aussi, bien sûr, rapporte La Presse, le dossier de la réforme électorale cet automne. C'est un dossier qui est en cours actuellement. On a une interview qui se profile cette semaine avec le député Murray Rankin. J'espère que cette interview pourra avoir lieu. On va en apprendre davantage sur la réforme du scrutin, la réforme électorale promise par Justin Trudeau lors de la campagne électorale de 2015. Donc, c'est à suivre. Et on aura, bien sûr, dans le débrief, des mises à jour et des infos à ce sujet. Et toujours dans ce papier publié dans La Presse, citant les dossiers chauds de l'automne, on parle du libre-échange et du bois d'œuvre, bien sûr. On parle aussi de la légalisation de la marijuana. Un autre enjeu important qui découle d'une promesse faite par Justin Trudeau durant la campagne de 2015. Il y a aussi la question des élections partielles. Quatre élections partielles s'en viennent, approchent à grands pas dans des comtés du pays, dont trois du côté de l'Alberta. Et il y aura aussi des nominations au Sénat. Et pour ajouter à l'affaire, il y a bien sûr des voyages à l'étranger qui sont prévus à l'agenda du Premier ministre. Donc Justin Trudeau va se rendre en différents endroits cet automne. Il est justement cette semaine à New York afin de participer à l'ouverture de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre Trudeau doit aussi participer au 16e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre. Il participera également au sommet de la coopération économique de la zone Asie-Pacifique, le sommet de l'APEC, qui aura lieu cette année à Lima, au Pérou. Donc, un automne chargé. Vous trouverez ce résumé des grands dossiers à venir sur la colline parlementaire d'Ottawa dans le journal La Presse. Ça s'intitule « Une rentrée parlementaire à Ottawa sous le signe de la prudence ». C'est signé par Joël Denis Bellavance. On a encore quelques minutes, je vais en profiter pour vous signaler un article paru dans le magazine Droit Inc, droit-inc.com, qui parle de la nomination d'un juge de la région des Maritimes à la Cour suprême. Le titre de l'article, « Les provinces de l'Atlantique tiennent mordicus à leur juge à la Cour suprême ». Si ça vous intéresse, c'est un papier de La Presse canadienne qui est repris dans le portail de Droit Inc. Les auditeurs néo-brunswickois qui nous écoutent peut-être voudront consulter cet article. Et je termine avec une nouvelle sur nos océans. Les stocks de poissons du monde sont au bord de l'effondrement en raison de l'effet combiné du changement climatique et de la surpêche. C'est un papier qui paraît ces jours-ci dans le portail Mediaterre.org. Il est écrit, notamment, je vous cite quelques lignes, « Les océans ont absorbé plus de 93% de la chaleur générée par les activités humaines depuis 1970, selon un rapport rendu public ce mois-ci par l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. Pour les experts qui étudient la situation de la pêche au niveau mondial, le rapport de l'IUCN, cet organisme dont je viens de citer le nom au complet, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, c'est un rapport établi par 80 scientifiques. C'est un rapport qui s'est simplement ajouté à la pile grandissante de rapports qui montrent que la surpêche décime d'ores et déjà les stocks mondiaux de poissons. Vous trouverez ce papier dont je n'ai fait que vous lire que quelques lignes. Ce papier, vous le trouverez sur mediataire.org. On retourne quelques instants en musique. On va écouter une pièce qui s'intitule « Septembre ». C'est approprié, justement. C'est de l'artiste Lily Kao. On se retrouve de l'autre côté avec une petite revue de presse des éditos. Débrief, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 20 septembre, bienvenue dans l'émission. Il est 16h42. On va faire une petite revue de presse maintenant. Je vais essayer de respecter les temps impartis et on va se rendre à l'interview dans quelques instants. On commence par un papier publié dans le journal Le Devoir. C'est un papier qui est signé François Brousseau. Vous le connaissez peut-être, il est chroniqueur d'information internationale à Radio-Canada. Il signe aussi des chroniques occasionnelles dans les pages éditoriales du Devoir. Je vais simplement vous citer le titre, l'intitulé de sa chronique du jour, le tsar bien en selle. Et le tsar, il s'agit de Vladimir Poutine, bien sûr. Donc François Brousseau revient sur les élections législatives qui se sont tenues il y a quelques jours en Russie. Et donc, il fait un petit peu de prospective, un petit peu d'analyse sur la situation de la démocratie. On peut mettre des guillemets à démocratie, si vous voulez, en Russie. Alors, c'est un texte fort intéressant. Je vous encourage à aller le consulter. Ça s'intitule « Le tsar bien en selle ». On parcourt les pages du Devoir et c'est le texte sur lequel je veux vraiment m'arrêter quelques instants avec vous. toujours donc dans les pages édito du Devoir. On a un texte de Nathalie Drouin en date du 19 septembre aujourd'hui. Elle est présidente et fondatrice de l'Association pour la défense d'Omar Kader. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Omar Kader, c'est un enfant soldat qui a été emprisonné au goulag de Guantanamo à Cuba. Et le texte de Nathalie Drouin, qui est donc la présidente et fondatrice de l'Association pour la défense d'Omar Kader, s'intitule « Combien de temps Omar Kader devra-t-il encore attendre des excuses ?» Point d'interrogation. Elle écrit « Omar Kader a 30 ans aujourd'hui. Combien d'années devra-t-il passer avant que notre gouvernement ne lui offre enfin des excuses officielles assorties d'une compensation pour les fautes commises à son endroit, des fautes qui l'ont privé de ses droits les plus élémentaires. Nous avons une dette collective envers ce jeune homme, écrit Nathalie Drouin dans Le Devoir, un citoyen canadien à part entière que l'on a laissé croupir à Guantanamo pendant 10 ans et qui a subi des sévices, abandons et déni de justice à répétition depuis 15 ans. À l'encontre des conventions de droit international dont notre pays est signataire. L'histoire d'Omar Kader est une véritable disgrâce pour le Canada, écrit Nathalie Drouin. Canada qui se targue d'être le champion des droits de la personne et surtout des droits des enfants. Voici un rappel des faits en 15 points, écrit Nathalie Drouin. Omar Kader est né à Toronto en 1986. À 15 ans, son père le laisse dans un camp en Afghanistan avec la promesse de revenir le chercher. Il ne l'a jamais fait. Peu après, le camp est bombardé par l'armée américaine. Omar Kader est le seul survivant. Pendant l'attaque, il est atteint par 2 tirs qui lui infligent de graves blessures au dos, faisant éclater son épaule, demeurée partiellement paralysée. Les éclats d'obus lui font perdre l'usage d'un œil et limitent sa vision dans l'autre. Alors qu'il est inconscient, on le transfère dans un hôpital du tristement célèbre centre de détention américain de Bagram, en Afghanistan, où il demeure inconscient pendant 7 jours. Dès son réveil, l'adolescent est battu, torturé par quasi-noyade, cette méthode de noyade simulée. Donc il est torturé par quasi-noyade et menacé par des chiens agressifs. Sa tête est enfouie dans une cagoule, attachée si serré qu'il a de la difficulté à respirer, ce qui le fait paniquer et s'évanouir. Le sergent Joshua Klaus, principal interrogateur d'Omar Kader à Bagram, a reconnu l'avoir questionné de 20 à 25 fois en 3 mois au cours de séances qui pouvaient durer 6 heures et au cours desquelles Omar Kader était privé de médicaments et de sommeil. Le sergent Klaus sera plus tard inculpé pour la mort d'un prisonnier et pour en avoir blessé gravement 2 autres avec les mêmes méthodes d'interrogation infligées à Omar Kader. Mais sa peine de 6 mois de prison sera suspendue en échange d'un témoignage contre Omar Kader. Omar Kader a 15 ans lorsqu'il arrive à la prison de Guantanamo. Il y passera 10 ans pendant lesquels les mauvais traitements se poursuivront. À Guantanamo, Omar est maintenu en isolement prolongé, torturé et violenté, alors que tous les autres enfants sont gardés dans des baraquements spéciaux et scolarisés. Omar Kader est le seul mineur à être détenu avec les adultes, sans accès à l'éducation ni à d'autres moyens de réadaptation. Le Canada n'a rien fait pour rapatrier Omar Kader. Malgré 3 jugements de la Cour suprême du Canada en sa faveur, il a été le dernier détenu occidental à quitter Guantanamo. Selon la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits des enfants et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, Omar Kader avait droit à diverses protections qui lui ont toutes été refusées, écrit Nathalie Drouin, présidente et fondatrice de l'Association pour la défense d'Omar Kader, cet enfant soldat qui avait été laissé en Afghanistan dès l'âge de 13 ans, abandonné à son sort par son père à l'âge de 15 ans. Il avait été préalablement endoctriné, bien sûr. Donc, c'était un enfant. Il a reçu une justice inique. C'est très bien décrit par Nathalie Drouin dans ce texte paru dans Le Devoir. Je vous encourage à le consulter. Combien de temps Omar Kader devra-t-il attendre des excuses? Voilà, c'est en date du 19 septembre. On va tout de suite se rendre en maintenant à l'interview du jour. Je vous le mentionnais en ouverture d'émission. On parle du festival Burning Man. Donc, c'est un petit peu plus léger. On va pouvoir reprendre notre respiration. On reçoit aujourd'hui Nathalie Leduc pour la première partie d'un entretien qui s'est enregistré ce matin. On fait le bilan du festival Burning Man qui s'est tenu au Nevada avec Nathalie, qui est une artiste de Victoria, que les auditeurs de CILS commencent à connaître. C'est quand même, ça fait quelques interventions qu'elle fait au micro du débrief. On est bien content de l'avoir. Et donc, aujourd'hui, on parle de Burning Man. On écoute la première partie de l'entretien qu'elle m'a accordé à propos de Burning Man aujourd'hui. À plus tard.
Attends, ce micro.
La première interview savent que tu étais allé à Burning Man alors que c'était encore très peu connu en 2000.
Ben, c'était quand même déjà assez connu. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, en 2000, on parlait déjà là, d'un grand boom.
Ouais.
Je pense qu'il y avait eu 28 000 personnes déjà.
Ah,
donc c'était quand même assez peuplé. Puis
oui.
on se disait, oh, c'est épouvantable, c'est gros. Mais là, en 2016, c'est encore plus gros. Je connais pas le nombre de personnes. Je sais pas combien de personnes sont venues cette année,
ouais.
Mais je sais que l'année dernière, il y avait 70 000 personnes.
Énorme.
Et cette
énorme.
Année, on parlait encore d'un chiffre plus gros. Alors,
c'est
quelque chose d'assez connu, mais bon.
C'est ça, c'est que la courbe de croissance n'a cessé de grandir. Donc, c'était énorme en 2000. Là, c'est gigantesque.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est Burning Man? Est-ce qu'on peut juste rappeler les infos vitales?
Ben, Burning Man, c'est un essai de communauté, un essai de créer une communauté pour une semaine dans un désert. Il n'y a aucun arbre. Il faut apporter aussi tout ce dont on a besoin pour survivre pendant une semaine, toute l'eau dont on a besoin pour se laver et aussi pour boire. Et aussi, il faut, une des choses les plus importantes, c'est de rapporter aussi tous nos déchets pour ne laisser
oui.
aucune trace. Sur le sable, en fait.
Voilà.
Et donc, le sable que je t'ai rapporté, c'est rien comparé au sable qu'il y a là-bas.
Non, c'est...
Il y en a du sable.
C'est à perte de vue.
Oui, non, c'est drôle. Puis,
oui.
Je peux te raconter une petite anecdote,
Justement, l'émission est faite pour ça.
Non, à un moment donné, j'ai trouvé un balai.
Oui.
Et j'ai commencé à balayer partout à l'entour de moi. Et bon, pendant une semaine, mon costume, c'était mon sarrau.
Oui.
Donc, c'était un costume très facile, mais c'est un costume qui me définit assez bien.
Oui, puis les gens qui étaient au Festival des francophones de Victoria en mai dernier ont pu te voir en sarrau. Tu avais une installation très particulière
oui.
avec une dactylo qui faisait des portraits.
Oui.
C'était une de tes œuvres d'art, installation.
Oui. D'ailleurs, je la portais à Burning Man aussi. J'ai fait des portraits là-bas en français.
Ah,
ouais,
wow.
Oui. Mais le truc du balai, ça a été vraiment drôle parce que je balayais très sérieusement, puis
oui.
je disais qu'il fallait que j'aille finir avant que tout le monde se réveille, puis donc j'ai inventé des belles histoires, mais c'était l'idée impossible de tout balayer, en fait.
Donc ça, c'est Burning Man 2016.
2016, oui, cette année.
D'accord.
Ouais.
Et t'as trouvé le balai dès le premier jour?
Non, pas dès le premier jour. Ça m'a pris un petit peu de temps avant de trouver le balai. Il était sur une TV mobile, disons. C'est
okay.
Quelqu'un avait apporté cette grande... comment est-ce que je pourrais... une télémobile.
Ouais.
Comment est-ce que je peux décrire cette télémobile? C'est un grand véhicule
ouais.
Sur laquelle, au-dessus de laquelle, il y avait une grande plateforme pour que les gens puissent se tenir, puis comme ça, puissent voir quelque chose du haut là, de la télévision. Puis, sur le côté, il y avait un grand trou et ça ressemblait à une télévision, tu sais, il y avait des boutons, tout ça, puis il y avait une scène à l'intérieur avec une table et puis des fauteuils un peu comme dans un talk show.
D'accord.
Donc les gens pouvaient aller à l'intérieur et puis faire un talk show. Et donc c'est sur ce véhicule que j'ai trouvé ce balai. J'étais avec des amis qui faisaient le talk show et moi j'étais un peu dans les coulisses. J'étais dans les coulisses puis je passais des objets aux gens, puis ça faisait partie aussi un peu du talk show, là.
D'accord.
C'était assez drôle.
On est en train de de dégager, si tu veux, l'un des préceptes de Burning Man, qui est de participer et
oui.
d'apporter quelque chose.
Oui.
Bien des gens construisent des chars ambulants, des chars allégoriques.
Oui.
Ils montent des structures impossibles, très farfelues, très fantaisistes.
Oui.
Et le site du festival, justement, c'est une agglomération de structures, de véhicules, de
oui.
vélos et de milliers de gens déguisés.
Oui, déguisés. Certains sont plus ou moins déguisés. Là,
oui.
Mais, oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, une des premières observations que j'ai faites quand je suis arrivée, c'était, ben, qui existe depuis longtemps, fait qu'en 2000, c'était aussi comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui s'habillent en femmes à
oui.
Burning Man.
D'accord.
Et j'ai parlé à un de ses amis qui avait un tutu, tu sais, mais qui avait l'air quand même d'un homme. Il avait une barbe et tout ça, là, mais tu sais, il s'habillait là, avec des vêtements féminins.
Oui.
Et il expliquait en fait que c'est parce que il trouvait que bon, dans la vie courante, s'il s'habillait comme ça, bon, on le regarderait un petit peu tout croche, mais là, mm-hmm. à Burning Man, c'est permis, et donc, ils le font.
Il y a de la nudité aussi.
Il y a de la nudité aussi, mais
oui.
j'ai trouvé qu'il y en avait moins que qu'en 2000.
Oui.
Même s'il y avait plus de monde, j'ai trouvé qu'il y avait moins de nudité,
mm-hmm.
Mais plus de costumes comme ça, ben, je dirais peut-être pas plus, mais il y avait encore beaucoup de costumes, puis surtout
oui.
des hommes en jupe. Puis je me suis fait la remarque, en fait, mais si tous ces hommes en jupe ici aiment se mettre en jupe et qui se mettaient en jupe dans la société, ben il y en aurait beaucoup. Là.
Oui,
je trouvais que le pourcentage était quand même assez élevé. Là. Donc, je pense qu'ils pourraient y aller. Là.
Ben oui, il faut se lâcher un
ouais.
peu. Donc, il n'y a pas juste Burning Man qui est en vase clos comme ça.
Non,
il faut
non.
être comme ça dans la vie aussi.
Ouais.
Est-ce que tu peux comparer 2000 et 2016? Donc, tu étais à
oui.
Burning Man en 2000.
Oui.
Tu y étais il y a quelques jours
oui,
en,
oui,
2016. Peux-tu comparer les deux éditions?
Oui, en fait, je vais avouer quand même que j'ai pas beaucoup de souvenirs de 2000.
Ah bon? Est-ce qu'on doit en conclure que...
Non, non, non absolument pas. Non, non. Je suis une fille tout à fait sobre. C'est juste le temps, tu vois.
Oui.
Le temps...
Le temps fait son œuvre.
Le temps fait son œuvre et bon, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui s'est passé dans ma vie depuis
oui.
ce temps-là, donc j'ai pas beaucoup de mémoire de souvenirs.
Mais t'as quand même un sentiment...
Mais j'ai un sentiment. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces véhicules dont on a parlé avec les grandes plateformes pour accommoder beaucoup de personnes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus.
Ouais.
En l'an 2000, il n'y en avait pas beaucoup. OK? Il y en avait, mais pas beaucoup comparé là, à l'explosion là, incroyable
ouais.
de ces véhicules. Puis, en l'an 2000, ce qu'on appelle les hard cars, donc les voitures décorées où tu avais peut-être une ou deux personnes qui pouvaient s'asseoir,
places,
là. Oui. Y en a moins en comparaison à ces grands véhicules avec des plateformes pour accommoder beaucoup de personnes.
Mm-hmm.
Ouais. Et puis,
c'est quoi la journée type à Burning Man?
Ouais.
C'est peut-être
ouais.
pas une journée diurne comme on les connaît dans notre vie, métro, boulot, dodo, ou
non,
en
pas
tout
cas,
autobus.
Bon, on peut prendre dodo. L'autobus là-bas aussi.
C'est ça qui est remarquable. Donc, il y a des points communs, mais bon,
ouais.
toi, par exemple, tu te levais le matin.
Oui, je me levais quand même assez tôt parce
ouais.
que... je me levais vers 6 heures. 6 heures, je me réveillais. Je ne sais pas pourquoi, je me réveillais.
Okay. Ça y était.
Ça y était, je me réveillais, puis je suis un peu fatiguée là, le
mais
matin.
Mais il y a de l'action
là.
Sur le site à cette heure.
Ben, il y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui circulent, qui vont faire leurs petites affaires. Là,
des gens qui ne sont pas encore couchés, peut-être?
Peut-être. Il y a des gens qui vont se coucher à cette heure-là aussi.
Oui. Mais pour toi,
puis,
ça ressemblait à quoi?
Oui, c'est ça. Donc, le matin, je me lève. Je mange un peu, puis... je parle avec les gens qui sont avec moi dans le camp. On est regroupés par différents campements. Et puis, moi, j'étais avec les hard cars.
Oui.
Donc, les voitures décorées. J'avais quelques amis dans ce camp-là. Puis, j'ai découvert de nouveaux amis aussi.
Oui.
Ce qui est un gros avantage de Burning Man, c'est que les amitiés se forment assez
mm-hmm.
rapidement. Bon, on traîne un peu pendant la journée. On va voir. Parfois, j'allais me promener un peu partout, soit en vélo, soit avec d'autres personnes pour aller pour aller voir l'art, là, aller voir les belles oui. structures, puis les sculptures. Donc, il y avait des choses pendant la journée. Donc, si tu veux voir les sculptures en plein jour, c'est le temps d'y aller pendant la journée.
Hein? Oui, parce que c'est mieux. On les voit mieux.
On les voit mieux. Puis, on va chercher de la glace, parce que la glace, c'est une des seules choses qu'on peut acheter. Donc, on va chercher de la glace si on en a besoin pour des raisons de réfrigération. Et puis, quand oui. on a un vélo qui fait de la crème glacée, ben c'est bien d'avoir un peu de glace.
Oui, alors ouvrons la parenthèse. Il y avait un véhicule bien, ouais. bien spécial, spatial, que tu avais conçu et réalisé avec l'aide d'amis américains. Un véhicule qui s'appelait le Churnatron 1400.
1400, ouais, t'as une bonne mémoire.
Alors, tu étais dans la section des véhicules d'art.
Ouais.
Le Churnatron brillait parmi cette écurie de véhicules d'art.
Ben, il était très différent des autres parce que ouais. les autres c'était plutôt des véhicules motorisés.
Ouais.
Et puis bon, le Churnatron c'est un véhicule à pédale, donc un vélo.
C'est ça.
Un vélo avec quatre places, deux en bas, deux en haut, donc deux étages et six barattes pour faire de la crème glacée.
Ah ouais, ouais. Donc c'est actionné ouais. par
actionné
les pédales?
Actionné par les pédales, oui, ben par les gens qui sont, je sais pas si
oui,
sont des pédales.
Oui, il faut que l'humain pèse sur la pédale, appuie sur la pédale. Alors c'est sur cette description du Churnatron 1400 de l'artiste Nathalie Leduc qu'on interrompt cette interview consacrée à Burning Man 2016. On vous diffuse la seconde portion de cette interview, bien sûr, demain dans le débrief. Manquez pas ça. Il y a encore beaucoup